Laudetur Jesus Christus.
Une première depuis le début de la guerre en Ukraine, des responsables américains et russes discuteront face à face aujourd'hui à Riyad, un premier pas vers une normalisation de leurs relations. Nous verrons ce qu'attend Moscou de cette rencontre. L'armée israélienne devait se retirer complètement du Liban aujourd'hui au terme de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Ce n'est pas le cas, ce que dénonce le président libanais. La guerre civile au Soudan et la poursuite de la désagrégation du pays, les FSR, les paramilitaires, ont signé avec des groupes de civils une charte politique créant l'embryon d'un futur État. La politique migratoire de Donald Trump inquiète l'Église américaine. Escalabrinien engagé auprès des migrants rappelle les sacrifices que ces derniers ont endurés pour chercher une vie meilleure. Ils invitent à les respecter davantage. La paix en Ukraine se fera-t-elle sur le dos des Ukrainiens et dans leur dos? Après le rapprochement entre Russes et Américains, que pensent les premiers concernés? C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Pas de fièvre hier soir pour le pape François. C'est ce qu'a déclaré la salle de presse du Saint-Siège dans son dernier communiqué. Ses conditions cliniques sont stables. Le Saint-Père poursuivra encore plusieurs jours son traitement, réévalué à la lumière des derniers examens qui ont révélé une infection polymicrobienne des voies respiratoires. En raison de son hospitalisation qui se prolongera encore plusieurs jours, l'audience générale demain matin n'aura pas lieu. Prochain point officiel attendu dans la matinée. Nous vous tiendrons bien évidemment informés. Dans l'actualité internationale, après la réunion informelle hier à Paris entre une dizaine de dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN pour définir une ligne commune face à Donald Trump, une autre réunion d'importance a lieu aujourd'hui à Riyad, celle entre les délégations russes et américaines, la première du genre depuis le début de la guerre en Ukraine, et conséquence de la conversation téléphonique entre les présidents russes et américains la semaine dernière. Avant même le début des discussions dans la capitale saoudienne, le ministre russe des Affaires étrangères a exclu tout échange de territoire entre la Russie et l'Ukraine, à des propos qui interrogent sur les intentions du gouvernement russe. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
Pour Moscou, la réunion qui doit avoir lieu aujourd'hui à Riyad sera principalement consacrée au rétablissement de l'ensemble des relations russo-américaines. Une relation bilatérale en hibernation depuis la fin du mois de février 2022. Et dans ce contexte, les négociations sur l'Ukraine ne seront qu'un des thèmes abordés, comme la situation au Moyen-Orient ou encore l'organisation d'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Reste qu'en confiant ces négociations à deux de ses proches aux compétences unanimement reconnues, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie, et Youri Outchakov, son conseiller diplomatique, Vladimir Poutine démontre l'importance qu'il accorde à ses pourparlers qui permettront certainement de poser les bases d'une sortie de crise en Ukraine. Mais là encore, Moscou reste maximaliste en attendant d'entrer dans le dur des négociations. En plus d'exclure tout échange de territoire avec Kiev, Sergueï Lavrov a en outre signalé lundi qu'il ne voulait pas des Européens à la table des négociations s'ils ont pour ambition de poursuivre la guerre. Jean-Didier Revoy, Moscou, pour Radio Vatican.
Et le secrétaire d'État américain est élu à Riyad hier. Marco Rubio a rencontré son homologue saoudien ainsi que le prince héritier. Au menu, la situation au Proche-Orient et tout particulièrement dans la bande de Gaza. Tout arrangement dans le territoire palestinien devra contribuer à la sécurité régionale selon un communiqué officiel. États-Unis et Arabie Saoudite ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre le cessez-le-feu à Gaza et à veiller à ce que le Hamas libère tous les otages, y compris les citoyens américains. Les deux hommes ont aussi parlé de la liberté de navigation en mer Rouge, de la Syrie et du Liban. Le Liban, où l'armée israélienne est supposée achever son retrait du sud du pays ce mardi, comme le stipule l'accord de cessez-le-feu qui a mis un terme à une guerre de 66 jours avec le Hezbollah. Israël a cependant exprimé son intention de maintenir une présence militaire sur le territoire libanais. Les précisions à Beyrouth de Paul Khalife.
Les cinq collines qu'Israël voudrait conserver vont de la Méditerranée au secteur oriental de la frontière. Elles permettent de surveiller une grande partie du sud du Liban et surplombent des localités israéliennes dans le nord de la Galilée. Des sources de sécurité libanaises affirment que l'armée israélienne a effectué des travaux de renforcement, de terrassement et de construction de remblais dans ces positions qui pourraient accueillir des dizaines de soldats chacune. Le président de la République, Joseph Aoun, avait exprimé lundi ses craintes que l'armée israélienne ne se retire pas totalement du sud Liban. Le chef de l'État a cependant exclu un recours à la force militaire pour contraindre les Israéliens à quitter le territoire libanais. L'option de la guerre ne fonctionne pas et nous passerons par des moyens diplomatiques car le Liban ne peut plus supporter une nouvelle guerre, a dit Joseph Aoun. Quelques heures avant la date de son retrait, l'armée israélienne poursuivait les opérations de ratissage aux armes automatiques et la destruction de bâtiments et de maisons dans plusieurs localités du sud Liban. En fin de matinée, un responsable du Hamas a été tué dans une attaque au drone à l'entrée de la ville de Saïda, à 45 km au sud de Beyrouth. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Et Israël a d'ores et déjà prévenu qu'il agira de façon coercitive contre toute violation du Hezbollah. Déclaration donc du gouvernement israélien il y a quelques minutes. Le gouvernement congolais ne décolère pas face à la communauté internationale, tout spécialement l'ONU. Kinshasa a dénoncé dans une lettre hier l'inaction et l'attentisme du Conseil de sécurité des Nations Unies après la chute sans véritable combat de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, qui intervient quelques jours après la prise de Goma par les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Le texte regrette la paralysie qui donne libre cours à la poursuite de l'occupation illégale des territoires congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs du mouvement terroriste M23, écrit donc l'ambassadeur congolais auprès des Nations Unies. Au Soudan, la marche vers la division du pays s'accélère. Les forces de soutien rapide, les FSR, autrement dit les paramilitaires et des groupes de civils, ont en effet signé une charte politique au Kenya. Les explications d'Augustine Passilly.
Cela fait plusieurs mois que des partis politiques, des groupes armés et des personnalités de la société civile insistent sur la nécessité d'établir un gouvernement dans les zones contrôlées par les forces de soutien rapide, principalement à l'ouest du pays. Depuis le début de la guerre, ces zones n'ont plus accès aux banques, aux télécommunications, à l'éducation ni aux services de base. Nous voulons remettre ces services en place et rééquilibrer l'équation politique, résume le responsable politique Ahmed Togut. Cet ancien rebelle du Darfour faisait jusque-là partie de la coalition pro-démocratie Takadoum qui s'est séparée la semaine dernière, précisément au sujet de ce gouvernement pro-FSR. Car beaucoup craignent que cette décision n'accélère la division du pays et retarde encore le retour de la paix. De son côté, l'Union africaine réunira du 19 au 21 février des civils qui soutiennent l'armée ou les paramilitaires ou encore affichent leur neutralité. Ce processus a été entamé l'été dernier lorsque l'instance panafricaine avait reçu séparément les proches de l'armée puis ceux qui entretiennent des liens plus ou moins étroits avec les FSR. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
La violence qui dévaste Haïti ne cesse d'inquiéter son voisin. La République dominicaine tente de s'en préserver en allongeant d'une dizaine de kilomètres le mur de séparation des jalons de 34 kilomètres. L'objectif est de porter sa longueur totale à 176 kilomètres. Selon le président dominicain, le tronçon déjà existant a permis de faire reculer d'environ 80% les vols, tant de bétail que de moteurs et de véhicules dans la région de Darabone. Toujours en matière d'immigration, après le Panama ou le Guatemala, le Costa Rica se dit prêt à son tour à collaborer avec les États-Unis pour accueillir des migrants expulsés du territoire américain. Durant sa campagne, Donald Trump avait promis le plus grand programme d'expulsion de l'histoire des États-Unis et a mis ses menaces à exécution. La semaine passée, le pape, dans une lettre aux évêques américains, avait rappelé la nécessité de protéger la dignité humaine des migrants. C'est ce que rappelle aussi le père Giovanni Bizzotto. Il est le provincial des religieux scalabriniens aux États-Unis. Il travaille depuis des années auprès des migrants.
Dans nos communautés multiculturelles, nous avons des migrants qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Ils ont leur vie ici, leur famille, mais ils n'ont pas de papier. Et il y a une grande peur dans la population qui est installée ici depuis des années. Et une peur surtout chez ceux qui sont arrivés ces deux dernières années, de savoir s'ils pourront rester ou s'ils seront renvoyés chez eux. Il y a eu beaucoup de décrets administratifs du président qui effraient tout le monde.
Les migrants viennent pour travailler, les migrants ne sont pas criminels.
Les migrants viennent ici pour travailler, ce ne sont pas des criminels. Les migrants ne sont pas des mauvaises personnes, ce ne sont pas des assassins. Ce sont des gens qui ont beaucoup souffert, mais qui ont une grande résilience, comme on dit. Ils luttent pour leur propre bien et celui de leur famille. On doit protéger nos frontières, mais toujours avec des moyens humains. C'est un devoir moral de prendre soin d'eux, de les accueillir et de cheminer avec eux pour les intégrer dans le tissu social.
Le père Giovanni Bizzotto, provincial des religieux scalabriniens aux États-Unis, il était interrogé par notre consoeur Giada Chilino de la rédaction italienne de Radio Vatican. Une paix solide et durable en Ukraine doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles. Déclaration hier d'Emmanuel Macron après des appels téléphoniques aux présidents américains Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président français réunissait à l'Élysée plusieurs dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN afin d'élaborer une stratégie commune pour soutenir Kiev face à la Russie et trouver aussi une voie, alors que Donald Trump s'est engagé à ouvrir des négociations directes avec Vladimir Poutine. Ces discussions voulues par la Maison-Blanche pour arrêter la guerre ont provoqué le désarroi chez les alliés de Kiev, mais encore plus chez les Ukrainiens. Après 3 années de guerre, l'Ukraine résiste toujours. Responsable du département des études ukrainiennes à l'INALCO à Paris, Irina Dmitrichine rappelle combien, au-delà des enjeux politiques, le peuple ukrainien veut rester maître de son destin.
Il faut vraiment être conscient que ça fait 3 ans que la guerre dure, que ça fait 3 ans que l'Ukraine vit dans un état de tension et d'engagement extrême. On a quand même, au début de la guerre, vous vous souvenez, on disait que l'Ukraine allait tomber en 24 heures ou 48 heures, qu'elle n'allait pas tenir, etc. Donc on oublie, dans toutes ces situations, on oublie l'Ukraine, la société ukrainienne et la position, si vous voulez, de la société ukrainienne qui est engagée dans un combat existentiel. Et ça, tout le monde en est conscient. Les Ukrainiens, bien sûr, veulent que cette guerre s'arrête, ne veulent pas voir tomber ses meilleurs enfants. Mais en même temps, on a suffisamment d'informations sur ce qui se passe dans les territoires occupés. Nous savons que dans les territoires occupés, ce sont des enlèvements, des tortures, des arrestations. On sait aussi qu'aujourd'hui, les jeunes Ukrainiens des territoires occupés sont forcés à s'engager dans l'armée pour combattre du côté russe. Donc tout cela redonne des forces à la société. En tout cas, donne le sentiment extrêmement clair et limpide que la mauvaise paix ou le fait de céder face à cet agresseur ne va pas amener la paix. Ça sera d'autres problèmes et peut-être encore plus graves que l'état de guerre dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Vous venez de revenir sur la résilience très importante des Ukrainiens après 3 ans de guerre. Est-ce que vous pensez que cet état d'esprit de résistance, de résilience des Ukrainiens est suffisamment ancré dans la conscience des alliés de Kiev pour penser l'après ?
Je pense qu'on finit toujours par prendre conscience et ça a été prouvé à de nombreuses reprises. Souvenez-vous qu'en 91, Thatcher et Bush père exhortaient les Ukrainiens à ne pas proclamer leur indépendance, à rester au sein de l'Union soviétique. La visite de Bush, c'était en août 91. En décembre 91, l'Union soviétique n'existe plus. On oublie que les Ukrainiens ont affirmé leur choix, se sont battus, ont versé leur sang aussi bien en 2004, au moment de la révolution orange, qu'au moment de Maïdan en 2013-2014. Ce qu'on appelle l'Ukraine sujet, le sentiment qu'on n'est pas juste un jouet entre les mains des puissances, ça c'est extrêmement important pour les Ukrainiens et ils sont prêts pour se battre, quand bien même certains croient pouvoir revenir à l'époque des zones d'influence et de partage du monde.
Le président Zelensky a rappelé qu'il n'était évidemment pas question que une paix juste se fasse sans les Ukrainiens. Néanmoins, je voulais vous demander si en Ukraine, il y avait des courants pragmatiques, entre guillemets, sur les concessions futures à faire dans d'éventuelles négociations. Je pense aux territoires occupés à l'est, je pense à la Crimée.
D'abord, les voix réalistes, c'est celles qui disent que la mauvaise paix, la paix où il y aura trop de concessions à la Russie, ce n'est pas une paix, c'est juste une guerre repoussé à quelques années, mais qui reprendra de par la nature du régime russe actuel. Ce qui compte pour les Ukrainiens, c'est le fait de pouvoir être responsable de son destin, c'est-à-dire de décider et de pouvoir appliquer ce qui était le choix des Ukrainiens. Et ça, les Ukrainiens n'ont pas renoncé à ces objectifs et je pense que le point principal, c'est de ne pas accepter les conditions russes qui consistent à vouloir mettre en place un régime favorable à la Russie, avoir un droit de regard sur les destinées du pays, reprendre une sorte de zone de contrôle, en tout cas considérer que cette partie de l'Europe est une zone d'influence russe. Les territoires, c'est une question qui vient après. Si vous voulez, on est conscient que militairement, on n'est peut-être pas en état de libérer ces territoires aujourd'hui. Mais ce qui compte surtout pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est de préserver leur autonomie et que leur choix européen ne soit pas remis en cause.
Interrogé par Olivier Bonnel, Irina Dmitrichine était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.